Bon après-midi à tous et à toutes. Salutations fraternelles en Christ Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a une parole de Luther qui me revenait lorsqu'on chantait nos cantiques tantôt. Enfin, il y a plusieurs paroles de Luther qui nous reviennent. C'est un drôle de moineau. C'est un moine, mais c'est un moineau aussi, hein? C'est un drôle de bonhomme. Il n'y avait pas comme vertu principale la rectitude politique. On connaissait tous cela, hein? Il y a eu intérêt souvent de fois, c'est mon cas aussi, de se taire. Mais enfin, il a dit des belles choses. Il dit entre autres, les chrétiens ne disent jamais de mensonges. Ils ne font que les chanter. J'ai trouvé que c'était une belle vérité. Alors qu'on chantait les cantiques tout à l'heure, c'est censé être nos CV, ça. Là. Je suis ceci, je suis cela, je suis toujours en paix. Hallelujah! Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la réalité au travail? Est-ce que c'est la réalité avec les enfants? Est-ce que c'est la réalité dans nos couples? Est-ce que c'est la réalité dans le monde? Non. On est en train de lutter constamment pour soumettre nos émotions à notre foi. Si tous les jours étaient des dimanches de culte, on serait déjà au ciel, hein? Parce que c'est une portion d'éternité qu'un culte. Mais on sait que ce n'est pas nécessairement le cas. On a une lutte à mener et nous la menons. Amen. On chante ses promesses, c'est par la foi. C'est précisément ce que je viens de dire. C'est par la foi et on va devenir cela. On prie que nos émotions soient soumises à notre foi et aux promesses qui sont les nôtres. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes dans la période de l'Avent, Adventus, qui veut dire arriver. On se prépare à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Il est déjà venu. On se prépare à commémorer son arrivée et c'est extrêmement important. C'est le deuxième dimanche de l'Avent aujourd'hui. On va avoir donc des prédications qui vont se centrer autour de la nativité, autour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. On est trois ou quatre prédicateurs ici, alors on ne s'est pas concerté qui allait prêcher quoi. Sauf que moi, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec Christian parce qu'on se parle presque quotidiennement. On a déjà décidé ceci, c'est que dans mon cas, je vais vous apporter deux messages sur l'apparition de l'ange au berger. Un ce matin, un le 19, et le 9 janvier, lorsque je vais revenir en 2022, si Dieu nous prête vie, ça va être la visite des mages. J'ai pensé que c'était approprié de prendre les deux extrêmes pour bien démontrer l'étendue du salut. Ce salut qui est là pour les bergers, qui étaient des laissés pour compte. Des gens qu'on ne considérait pas, des rebuts de la société en quelque sorte, qu'on ignorait complètement, et qui sont les premiers à recevoir la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, et en même temps, les grosses légumes, comme on dit, hein, les gens supposément importants, là, le haut de gamme, qui vont venir de Babylone, du bout du monde, pour venir adorer la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce seront mes messages pour Noël, je ne sais pas ce que Augusto et Jeff auront pour vous, mais on ne doute pas que ce seront des messages qui viendront de la parole du Seigneur Jésus. Si je parvenais à lire mes notes, ce serait bien utile, hein? Attendez. Ah oui, OK. C'est bon. Bon. Donc, je vous invite ce matin à ouvrir la parole du Seigneur avec moi dans l'Évangile selon Luc. C'est une période de joie que l'Avent. Bon, il y a des gens qui vont dans les magasins hein, pour tenter de trouver des cadeaux lorsqu'il en reste un peu sur les tablettes. Il y a des gens qui courent pour savoir comment on va se préparer. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui préparent les rencontres de famille. Et il y a les chrétiens qui veulent proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et pour les prédicateurs, ben, c'est le moment où on se dirige vers nos classeurs pour sortir nos prédications des fêtes. Parce que vous savez, quand ça fait 40 ans qu'on prêche Noël, on les a tous prêchés. Alors on les ressort, on les revoit, on les revisite, on les rafraîchit et on proclame à nouveau ces belles grandes vérités qui nous viennent d'en haut, le ciel qui a visité la terre. Donc, Luc chapitre 2, les versets 8 à 14 ce matin. Notre Dieu béni, on te prie cette parole qui va être lue maintenant et ces quelques pensées qui vont être émises Que nos cœurs puissent être interpellés, affermis, réjouis en ta présence, en Christ Jésus. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » C'est l'élément qui va retenir davantage notre attention aujourd'hui, le signe. « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. » Amen. Dans l'Église d'aujourd'hui, alors que nous sommes à la recherche de nouveaux modèles d'Église, on entend souvent ça, on cherche un nouveau modèle, et dans un intérêt souvent déplacé pour l'Académie, on en a parlé déjà, l'Académie a certainement sa place, être profond dans la prédication de la parole a certainement sa place, une place de choix, mais on peut facilement perdre de vue le rôle de l'Église. Quel est le rôle de l'Église sinon d'être témoin de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, d'être témoin du Christ ressuscité, commençant dans la Judée, si on s'en réfère là, à Actes chapitre 1, verset 8, et allant jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est appelée à être témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que quand on parle de témoignage, bien sûr, on a le souci des armes. Hein, on ne veut pas que les âmes aillent en enfer et souffrent éternellement. Mais ce n'est pas notre souci premier, parce que jusqu'à un certain point, c'est hors de notre contrôle. La mission n'a qu'un seul but et qu'une seule motivation, c'est que la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ soit adorée. Ce qui nous attriste dans un monde impie, c'est que le Christ n'est pas adoré. Il est ignoré, il est maudit, il est utilisé à toutes sortes de fins, mais on ne lui apporte pas l'adoration qui devrait être sienne, en tant que ce qu'il est, roi des rois, seigneur des seigneurs, et participant même de la création. Notre fils, vous le savez peut-être, demeure à Bloomington, en Indiana. Et il y a 2 ans, mon épouse et moi l'avons visité et on a profité de l'occasion pour aller à l'église là-bas parce que, providence divine, c'est un de mes amis qui est pasteur. Un de mes amis que j'ai connu il y a bien longtemps. Enfin, c'est une église un peu particulière. C'est une église qui est à la fois credo-baptiste, c'est-à-dire baptiste comme nous, mais qui est aussi pédo-baptiste. Ils ont les deux modes de baptême. Alors, leur ecclésiologie est quand même assez large. Pendant qu'on était là, on était extrêmement bénis. Le pasteur Tim Bailey a prêché un excellent message, ultra bénissant. Notre fils est avec nous, avec son épouse. Et pendant que j'y étais, on m'a remis le livre que ce pasteur-là avait écrit. Et en le lisant, il y a un petit paragraphe, enfin, il y a une dizaine de paragraphes, c'est un peu long, mais je vais vous le lire quand même, qui a attiré mon attention, que j'ai pris et que j'ai inclus dans mon cours de missiologie que j'ai enseigné au Texas il y a 2 ans. J'ai pensé le reprendre, ce texte-là, et le traduire pour vous ce matin, parce que vous savez que j'ai beaucoup, beaucoup à cœur de redonner un caractère central à l'Église locale. On est pour Internet, on est pour tout cela, on est pour les podcasts et tout ce qui existe, mais le caractère fondamental et central de l'Église locale. Alors, c'est de Tim Bailey, donc, qui est pasteur à Trinity Reformed Church à Bloomington, Indiana, et c'est dans son bouquin « Reformed Church ». Et je lis. « En octobre 1985, mon père entreprenait sa 25e et dernière année à titre de chroniqueur pour un périodique évangélique appelé Eternity. Son article ce mois-là s'intitulait « La fin d'une époque » et résumait ce que sa génération de leaders évangéliques avait reçu en héritage et ce qu'elle laissait à la génération suivante. Voici quelques extraits. Nous avons hérité de 3 ou 4 petits séminaires indépendants. Nous léguons 9 ou 10 saines institutions qui représentent la source majeure de formation de leaders évangéliques pour les églises et les organisations paraecclésiales américaines. Nous avons hérité d'un mouvement national de jeunesse, Christian Endeavor, un groupe interdénominationnel de jeunes chrétiens assistant les églises locales. Nous avons fondé des mouvements paraecclésiastiques incluant Youth for Christ, Young Life, InterVarsity Christian Fellowship et Campus Crusade for Christ. Nous avons hérité de programmes dénominationnels pour les enfants, les jeunes et les adultes, programmes centrés sur l'Église. Nous léguons Child Evangelism Fellowship, Christian Service Brigade, Pioneer Ministries, Christian Businessmen's Committee, Bible Study Fellowship, Neighborhood Bible Studies, Christian Medical Society, Christian Legal Society, Nurses Christian Fellowship et plusieurs autres programmes paraecclésiastiques. Nous avons hérité de chrétiens loyaux à l'Église. Alléluia. Nous léguons des chrétiens loyaux à plusieurs organisations religieuses en plus, et parfois, de préférence, à leur Église. À travers une bonne partie du 20e siècle, le protestantisme évangélique représentait la puissance dominante en Amérique du Nord. Mais comme mon père l'a noté, les évangéliques n'ont pas consacré leur vie à bâtir l'Église. Ils ont plutôt mis leurs talents au service de l'établissement de missions paraecclésiastiques, de collèges, de séminaires, de ministères de jeunesse, de camps, de croisades évangéliques, de stations radio, de maisons de publication, d'associations professionnelles et de ministères sur les campus. Ils parlent bien sûr des États-Unis, et c'est en train de devenir rampant au Québec. Les évangéliques les plus capables et les plus brillants ont exercé leurs dons hors de l'Église, et même s'ils croyaient que leur œuvre accomplissait la grande commission, on continue à se demander pourquoi l'Église semble avoir si peu d'importance. L'un des héritages que le monde évangélique a légué aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est la séparation croissante entre devenir un chrétien et devenir un membre de l'Église de Jésus-Christ. Notre évangélisation a appelé des hommes et des femmes à mettre leur foi en Dieu pour le pardon de leurs péchés et l'établissement d'une relation personnelle avec Jésus. Et alors, nous encourageons les nouveaux croyants à trouver une façon de continuer à croître. Quoi qu'il en soit, l'Église n'est plus vue comme essentielle à la croissance chrétienne. Nous avons de grandes conférences, les groupes Facebook, les groupes de musique, les podcasts, les sermons en ligne, le matériel de discipulat, les livres chrétiens et j'en passe. Ces fruits du ministère évangélique ont supplanté l'épouse du Christ, l'Église. Fin de la citation. Je laisse à votre réflexion purement et simplement. Le combat du 21e siècle, je pense, dans un monde de désengagement, c'est de préserver l'intégrité et le caractère central de l'Église locale. J'espère que ça n'a pas été trop long, non plus qu'ennuyeux. Nous avons lu le texte, hein? Oui, nous l'avons lu. Excellent. Bon. Alors, cet après-midi, nous allons donc voir la première campagne d'évangélisation. Intéressant, une campagne d'évangélisation, parce qu'on en voit de moins en moins souvent. On en avait à l'époque, hein, avec mon frère tout à l'heure, Pierre, on parlait d'Alain Choiquier. Pour ceux qui sont plus vieux, se souviennent peut-être de ce frère-là, qui nous venait de la France, là, et qui venait faire ses campagnes d'évangélisation chaque année. Mais plus connu encore est bien sûr Billy Graham, hein, qui était l'évangéliste, là, par excellence, dit-on, même s'il y a bien des gens qui le critiquent. Moi, je rends grâce au Seigneur pour le ministère de Billy Graham et toute l'œuvre qu'il a fait avec ce qu'il était, avec ses qualités et avec ses carences aussi. Donc, la première campagne d'évangélisation que nous allons voir aujourd'hui. La venue du Christ sur la terre a pas été beaucoup, beaucoup mise de l'avant, pas eu beaucoup de propagande journalistique, si vous me passez l'expression, à l'époque. Elle est passée inaperçue pour la plupart des gens, mais elle n'est pas demeurée ultra secrète. Elle devait être annoncée plus encore, elle devait aussi être expliquée, la venue du Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'avait pas encore été envoyée pour annoncer la bonne nouvelle, alors Dieu envoie un évangéliste céleste, il envoie un ange, il mandate un ange pour publier la bonne nouvelle, et cet ange fut donc, 2 millénaires passés, le premier évangéliste à venir sur cette terre. Premier évangéliste du Nouveau Testament, dirait-on. C'est ainsi que le texte que nous avons devant nous est d'une très, très grande richesse. Et j'avoue que quand j'ai préparé ce message-là, il y a des choses que j'aurais aimé développer davantage. Par exemple, les 4 titres du Christ qu'on retrouve au verset 11. Fils de David, Sauveur, Christ, Seigneur. Il y a déjà 4 messages juste là. Hein, il y a une très grande richesse là-dedans. On pourrait aussi élaborer longuement sur le verset 9 qui nous parle de la gloire du Seigneur qui est resplendie autour des bergers. On parle ici de la Shekinah. On va en reparler de la Shekinah lorsqu'on va parler des mages après les fêtes, après Noël. Mais pour la circonstance, donc, il m'a paru bon de me limiter à 3 éléments particuliers de cette annonce de l'ange au berger, et ce sont mes 3 points de cet après-midi, à savoir les bénéficiaires de l'annonce, qui sont ceux qui ont reçu les bienfaits de cette annonce-là, la joie de l'annonce, et troisièmement, le signe de l'annonce. Premièrement, donc, les bénéficiaires de l'annonce. On serait vraisemblablement attendu, écoutez, c'est Dieu lui-même, là, qui se fait homme et qui vient sur terre, c'est pas petit, pour venir opérer le salut des pécheurs. On serait attendu que cette annonce-là se fasse en grande pompe, et se fasse à des gens d'une extrême importance. On serait attendu qu'il envoie un ange dans l'église existante de l'époque, qu'il envoie un ange au temple, au palais d'Hérode, ou je ne sais trop où, mais que ce soit connu des prêtres et des scribes, qui connaissaient quand même très très bien les Écritures saintes, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il n'envoie pas l'ange à l'église de l'époque. C'est particulièrement surprenant que les premières personnes auxquelles la bonne nouvelle a été annoncée étaient des bergers. Ah, les bergers. Je sais qu'on a une vision très romantique des bergers. On s'en va dans la librairie chrétienne où on voit parfois des calendriers, le berger qui tient son petit mouton, qui le flatte gentiment, on a l'impression que le mouton ronronne, hein, et ça a tellement l'air doux et beau, là, et le berger souriant, dit « Ah, quelle belle vie! » Mais écoutez, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passait dans la réalité. D'abord, passer les nuits dans le champ, c'était pas le rêve que tout le monde nourrissait. C'était une vie ardue. Mais le verset 8 nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Si on venait à vous pour vous dire, écoute, j'aimerais que tu orchestres une campagne d'évangélisation. Est-ce que vous auriez les mêmes idées que Dieu a eues? À savoir, bien, on va la faire dans le champ, devant une couple de bergers puis des moutons. Hey, ça va être le réveil. Hein? Ce n'est pas tout à fait la pensée qui nous traverse l'esprit quand on pense à une campagne d'évangélisation, mais c'est précisément ce qui s'est produit ici. Au milieu du champ, devant une phalangine de bergers et un troupeau de moutons. Et on peut se poser la question du pourquoi du choix de Dieu. Il y a plusieurs raisons qui ont été avancées. D'abord, plusieurs parlent du lien avec le roi David, hein, qui avait lui-même été berger. Il y a également cette prophétie qu'on retrouve dans le prophète Jérémie, au chapitre 33, les versets 15 à 16, et je vous lis 13, 15 et 16. « Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. » En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Je vais vous voir ici, n'est-ce pas? C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un accomplissement. d'une façon ou d'une autre, de cette prophétie-là. Mais il y a une autre raison, à mon avis, pour le choix des bergers comme premier récipiendaire de l'annonce de la naissance du Sauveur. Les bergers, comme je le disais tantôt, c'était des hyper-marginaux. C'était vraiment des gens laissés pour compte. On n'avait aucune considération pour eux. D'ailleurs, on le sait, hein, quand les Juifs sont arrivés en Égypte, on ne voulait pas manger avec eux autres, c'était des bergers. Ils n'avaient pas une très, très bonne réputation, les bergers, pour différentes raisons. Et parmi le peuple de Dieu, ben, on les voyait comme des parias. Et leur présence à la crèche démontre que le salut est pour tous et que Dieu élève les humbles et abaisse même les orgueilleux. Vous savez que les bergers, le témoignage des bergers n'était pas reçu en cour. On ne prenait pas leurs paroles, on les considérait comme des menteurs. Alors nous avons tendance à le romantiser, comme je disais tantôt, le travail de berger, surtout qu'on retrouve plusieurs bergers dans la Bible. Cependant, en général, les bergers ne jouissaient pas d'une bonne réputation pour différentes raisons. D'abord, ils vivaient dans les champs. Ils ne pouvaient observer les lois cérémonielles et ils étaient vus comme des impurs. On sait que surtout pour les pharisiens, les lois cérémonielles, c'était extrêmement sérieux. Ils étaient regardés comme des voleurs et des menteurs. Ces bergers étaient méprisés et, à l'exception des lépreux, ils représentaient la plus basse classe d'hommes en Israël. C'est intéressant que Dieu choisisse d'aller voir ces gens-là dans le champ. Il est précisément allé à la rencontre de ces gens-là. Cependant, Dieu avait choisi ces hommes pour leur faire entendre l'Évangile, une classe de travailleurs pécheurs. Il n'y a personne qui est exclu de l'immensité du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont la foi, hein, qui ont un cœur bien disposé, comme le dit le texte, que Dieu, auquel Dieu a disposé le cœur, vont avoir la même réceptivité que ces bergers-là ont eu. Et c'est la raison pour la venue du Christ, sauver des pécheurs qui se reconnaissent comme tels. Je pense qu'un berger avait bien plus d'occasions de se reconnaître comme pécheur qu'un vulgaire pharisien avec des pouces d'un bretel, hein, qui pensait qu'il l'avait, lui, et qu'il n'avait pas vraiment péché, qu'il n'avait pas besoin d'un sauveur, parce qu'il respectait les lois. Donc, l'apparition de l'ange, avec tout ce qui l'entoure, a complètement terrorisé les bergers. Ça aurait pu terroriser n'importe qui. Rencontrer un ange, vous savez, c'est pas une rencontre qu'on fait quotidiennement. Hein? Et ça vous arrive comme cela, avec une Shekina autour, c'est pas petit, qui vous annonce en plus une nouvelle de la sorte. Alors, il était pétrifié sur place à l'annonce de cette... Pardon, j'ai un verre. De cette nouvelle-là. Le verset 9 nous dit en effet, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » C'est généralement ce qui se produit lorsqu'il y a une théophanie ou une angélophanie ou une christophanie, lorsqu'il y a une manifestation céleste. C'est généralement ce qui se produit, une terreur. Ça crée une terreur. Lorsque le ciel nous visite, on sent que la terre est indigne du ciel, n'est-ce pas? On voit la même chose pour Zacharie. Chapitre 1, verset 12 de Luc. On voit la même chose pour Marie, chapitre 1, verset 29, lorsque un ange est venu à elle pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Alors, il voit donc cette lumière étincelante qui perce la nuit noire et qui accompagne le messager de Dieu. Et la première chose que l'ange leur dit, c'est « Ne craignez point ». Il y avait certainement besoin de cet encouragement-là pour écouter le message. « Ne craignez point ». C'est des paroles profondes, vous savez. C'est des paroles qui n'avaient pas uniquement pour but de dire « Cessez d'avoir peur, je viens juste vous faire une petite visite. » Non, cessez de craindre. Ne craignez point. Et c'est ça le salut. C'est l'enlèvement de la crainte. C'est que nos consciences, par le Christ Jésus, par son sacrifice unique et parfait, sont complètement purifiées. On n'a plus de crainte à avoir. L'amour parfait bannit la crainte. Lorsqu'on va apparaître devant le Seigneur Jésus-Christ, d'abord, on va tous être jugés sur la même base, n'est-ce pas? On va être jugés sur la loi de Dieu. Dieu ne change pas. Il est toujours le même et sa loi demeure la même. On va être jugé sur la loi de Dieu. Sauf que pour nous, elle a été pleinement accomplie en Christ Jésus. C'est la raison pour laquelle ne craignons point si nous sommes en Christ Jésus. Donc, l'ange leur dit, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle, euagelizo, en grec, euagelizo, qui veut dire « je vous évangélise ». C'est littéralement cela, « je vous évangélise », de dire l'ange à ses bergers. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. C'est synonyme. Et chacune des paroles de l'ange revêt une grande importance. Les mots « ne craignez point », bien sûr, offraient une forme d'assurance. Hein? L'annonce de la bonne nouvelle apportait une grande joie. Une grande joie. Et cette bonne nouvelle-là concernait la naissance d'un enfant. Bien sûr, d'ici à ce que nous arrivions à la fin de l'Évangile de Luc, nous verrons que cette bonne nouvelle inclut autre chose que la naissance du Sauveur. Hein? Elle inclut également une mort et une résurrection. C'est extrêmement important de toujours se laisser rappeler qu'on n'est pas uniquement sauvé par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Si on était uniquement sauvé par la mort du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il aurait fait le ménage de nos péchés, mais on n'aurait pas de justice qui nous aurait été imputée. Pour entrer au ciel, il faut être juste, il ne faut pas être neutre. Il faut vraiment être juste. Il faut avoir accompli parfaitement la loi du Seigneur, ce qu'Adam et Ève ont manqué, vous voyez. Alors, nous sommes sauvés par la vie du Christ et nous sommes sauvés par la mort du Christ. On appelle ça un peu bêtement, là, ces souffrances actives et ces souffrances passives. Ces souffrances actives, lorsque tout du long de son pèlerinage terrestre, il s'est soumis à Dieu, hein, il n'a jamais péché, nous est-il rapporté, il a été soumis à toutes sortes d'épreuves sans jamais succomber aux tentations. Et en même temps, il y a eu ces souffrances, quand on dit passive, il ne veut pas dire qu'il faisait rien, mais ça vient du mot patheo, qui veut dire souffrir, pâtir. Alors, on est sauvé par sa vie et on est sauvé également par la croix. La croix vient faire l'expiation, il y a un meilleur mot pour cela, là, nous rendre, voyons, c'est quoi l'autre mot, maman? C'est bête, il vient pas. C'est un mot, ça fait une discussion à bon moment, mais en tout cas, disons expiation pour l'instant, c'est un beau synonyme. Fait l'expiation de nos fautes, nous rendu propice. Il vient faire la propitiation de nos péchés et en même temps, sa vie nous impute sa justice. Il nous donne sa carte de visite et il prend la nôtre. On doit aussi s'arrêter sur un autre détail du récit. Du message de l'ange. Deuxième partie du verset B, il nous est dit, « Il vous est né. » Non pas « il est né ». Il vous est né. Il est né pour vous. Il vous est donné, pour reprendre l'expression d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né. » Comme premier cadeau de Noël, on ne pouvait pas faire mieux. Hein? On colle souvent des étiquettes sur les cadeaux, de à. Mais c'est ce que Dieu a fait ici. Hein? De moi, Dieu, aux bergers qui sont là dans le champ, l'étiquette angélique. L'ange faisait beaucoup plus que dire aux bergers ce qui venait d'arriver. Il leur disait aussi pourquoi c'était si important. Ils étaient ceux à qui l'enfant était donné pour leur salut. Le Christ, ce n'est pas un don général, n'est-ce pas, et il s'est laissé au caprice de l'être humain de savoir s'il le prend, s'il le sait pour un temps, puis s'il le retourne, s'il n'y a pas de satisfaction. Non, le Christ n'est pas venu pour sauver potentiellement, il est venu pour sauver réellement. Alors, ils étaient ceux à qui l'enfant était donné pour leur salut. Et plus encore, il a été donné pour le salut de tous ceux qui le reçoivent par la foi. Et qui forme le peuple de Dieu. Une grande joie, nous dit le texte, pour tout le peuple de Dieu. Quelle phrase explosive! Il nous est né un sauveur. Les bergers, eux, l'ont reçu avec enthousiasme. C'était beau mot, enthousiasme. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu en moi. Enthousiasmos. Dieu en moi. Le reçoit avec enthousiasme et foi, et nous sommes interpellés à faire de même. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la joie de l'annonce. Versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. » Le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Depuis la nuit des temps, les humains recherchent la... En fait, on avait été créé pour cela, être joyeux. On avait été créé pour le bonheur, hein? Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. Ils ont pas mis dans une espèce, pas seulement d'expression, une dompe, là. Ils ont mis dans un super, de beau jardin, super florissant, et ils voulaient vraiment les voir s'épanouir, vous savez. On avait été créé pour le bonheur, dans une relation avec Dieu, en jouissant de tous les bienfaits qu'il y avait autour. Et les bienfaits ne manquaient pas. Alors, depuis la nuit des temps, donc, les gens recherchent la joie. Ils la recherchent par toutes sortes d'avenues. Ils la recherchent par toute une pléthore d'expériences diverses. Depuis la nuit des temps, les humains recherchent la joie. Et c'est comme ça au temps biblique. Rappelons-nous de Salomon. Bon, rappelons-nous de l'Ecclésiaste, parce que je suis encore de ceux qui croient que Salomon a écrit l'Ecclésiaste. Ça importe peu, mais je pense que c'est vraiment le cas. Mais ce qui est écrit là est extrêmement intéressant. On a quelqu'un qui a expérimenté toutes les avenues potentielles de joie sur cette terre. Tout ce qui peut s'expérimenter de plaisant, d'agréable, de ce qu'on aime vraiment, qui vient chercher nos tripes, et qui conclut en disant, « Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vide, tout est du vent. » Il dit, « J'ai essayé l'éducation. » Nous rapporte-t-il au chapitre 1, verset 13 de l'Ecclésiaste. « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » Bien sûr, c'est agréable. Ça peut faire plaisir à l'intellect. Hein, c'est agréable de connaître quelque chose de nouveau, mais ça ne vient pas remplir le cœur et ça ne vient pas apprivoiser les passions de l'âme, les passions de nos âmes. On a tous des passions de l'âme. Et des passions condamnables dans nos âmes. Et c'est ce que le Seigneur, par son Esprit Saint, par sa parole, dans le long processus de sanctification, vient transformer. Il va dire, « Ben, j'ai essayé le plaisir aussi. » Chapitre 2, verset 1. « J'ai dit à mon cœur, « Allons, je t'éprouverai par la joie, tu goûteras le bonheur. » Ah ben, c'est plaisant d'avoir une bonne soirée où on s'amuse, où on rigole, hein, et voilà, d'avoir un bon drink, d'avoir un bon good time. Est-ce que ça apporte le bonheur? Est-ce que ça libère la conscience? Est-ce qu'il reste quelque chose le lendemain? Il a essayé également le travail. Il nous dit au chapitre 2, verset 17-23, « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et un peu plus loin, que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et ça va réussir à décoller un jour, ça ne décollera pas, voilà. Et le partage n'est que chagrin, même la nuit, son cœur ne repose pas, c'est encore là une vanité. Combien de gens ont laissé leur vie, leur famille, des valeurs fondamentales sur l'autel de la carrière, trouvant leur plein épanouissement dans le travail? Et il n'y en avait jamais assez. Et voilà ce que Salomon a dit. Je pense qu'il a bien raison. Le succès, ah ben là, le succès, là, on a trouvé ce qu'il nous fallait, quoi. Le succès, ça veut certainement que ça va remplir nos cœurs. Ecclésiaste 5, 10 nous dit, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. Conclusion, vanité des vanités, tout est vanité. Le problème, c'est que quand on est jeune, on le sait, puis on ne le sait pas. On le lit, puis on dit c'est vrai, mais c'est plus compliqué à mettre en pratique. Hein? Malgré qu'il y a une réalité dans tout cela. On est appelé effectivement à s'amuser, on est appelé à travailler, on est appelé à s'éduquer. Il y a des vertus là-dedans, mais ça ne peut pas devenir notre tout. On ne peut pas prendre l'enseignement biblique au sérieux et rechercher notre joie sous le soleil. Au fil de mes lectures, j'ai rassemblé quelques témoins aussi qui vont venir dans la même foulée que l'Ecclésiaste. L'incrédulité. Voltaire était un modèle d'infidélité et d'incrédulité. Et pourtant, c'est lui qui s'est écrié, n'est-ce pas, avant de mourir, « Je voudrais n'être jamais né ». Le plaisir, Lord Byron, un poète du 18e siècle, avant notre frère André. Premier ministre, il a vécu une vie de plaisir comme pas un. Il termine en disant, « Les vers, la gangrène et la douleur sont pour moi seuls. » C'est ça, sous le soleil. C'est comme ça que ça se termine, sous le soleil. On regarde le psaume 37, on regarde le psaume 73, et c'est comme ça que ça finit le party, là. L'argent, Jay Gould, un multimillionnaire américain au 19e siècle, fait son argent dans l'essor des chemins de fer. Américain. À sa mort, il dit, « Je suis le plus misérable des hommes sur terre. » La position et la popularité, Lord Beaconsfield, premier ministre d'Angleterre au 19e, « La jeunesse est une erreur, l'âge adulte est un combat et la vieillesse un regret. » On peut-tu passer une couple d'heures ensemble? Hein? Ça devait être amusant de parler avec lui. La jeunesse est une erreur, l'âge adulte un combat et la vieillesse un regret. Quelque chose, une vie. Une vie qui vient de Dieu. C'est riche, une vie. Les conquêtes d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand conquit le monde, connu à l'époque, et après sa dernière victoire, il pleura amèrement dans sa tente. Il n'y a plus de monde à conquérir. Il pleurait sur le fait qu'il n'y avait plus de monde à conquérir. Et, sous le soleil, là, tout est extrêmement limité. Et on aboutit toujours à cette fin-là et à cette désillusion-là. Le plaisir, l'argent, la position, la popularité, les conquêtes, c'est licite, c'est correct. Il faut de l'ambition, il faut un incitatif, mais ça ne peut jamais apporter une joie durable. Qu'est-ce qu'on aime dire avec Jérémie? Ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il faut pour la véritable joie aller au-delà du soleil. Luc chapitre 2, verset 10. Le sujet d'une grande joie. C'est une belle phrase. Caran mégalène. Méga veut dire, on le sait, méga veut dire grand, énorme. Et bien sûr, cara veut dire joie. Charis veut dire grâce. Cara veut dire joie. Bonheur. Alors, Pierre, en Matthieu chapitre 16, verset 17, ça fait dire une très belle phrase par Jésus. Il n'y avait rien qui se passait de particulier autour. On ne sait pas s'il faisait soleil ou si c'était une journée agréable, mais Jésus était avec ses disciples. Et il pose une question, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et Simon-Pierre lui répond qu'il est le Fils de Dieu. Wow! Et Jésus le regarde et dit, « Tu es Makarios. » Tu es béni, tu as le bonheur, Simon-Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bonheur, là, ça va infiniment au-delà d'une émotion, c'est une posture, c'est un état. Simon-Pierre ne se sentait peut-être pas plus heureux que la veille ou qu'il y a 15 minutes avant, là. Il ne réalisait peut-être pas la grandeur, l'immensité de la grâce qui lui avait été faite, de reconnaître qui le Christ était. Et ça, bien aimé, c'est une grâce pour chacun de nous si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas trouvé ça tout seul. On n'a pas été convaincu par des arguments humains. Hein? C'est le Seigneur, le Dieu Très-Haut, qui dans sa grande miséricorde est venu ouvrir nos cœurs, à déposer cette vérité-là dans nos cœurs. Personne ne peut venir au Christ sans cela. Et ça, c'est pas cette petite joie éphémère, là, qui aussitôt goûtée s'évapore, ou encore dont on se lasse si rapidement. On se lasse souvent, hein, des joies de ce monde. On attend quelque chose, on a tellement hâte de l'avoir, surtout aujourd'hui, là, avec le manque de personnel, avec Amazon, c'est plus lent un peu. On a hâte de le recevoir, puis quand on l'a reçu, le lendemain, la joie est partie. Oui. C'est ça les joies du monde. Ça dure ce que dure une rose, en quelque sorte. Mais la joie que Dieu donne dure éternellement. Le bonheur, c'est un sous-produit de la consécration. Pardon, un sous-produit de la consécration. C'est le drame du monde, hein? On voit le bonheur comme une fin en soi. C'est pas une fin en soi, le bonheur. C'est un sous-produit. C'est grâce à la consécration qu'on trouve le bonheur. Si on cherche le bonheur dans les circonstances, dans nos émotions, on va être frustré, on va être à terre, on va être déprimé, on va être dans un désert. C'est un sous-produit de la consécration. Alors, tant et aussi longtemps qu'on court après, il se sauve, pour ainsi dire. Quand j'étais jeune, vous savez. Non, je ne vous raconterai pas ça, là. Il y a pas mal de monde. J'ai eu envie de vous le raconter. Non. Bon. Si on ne trouve pas notre joie en Jésus-Christ, on ne la trouvera nulle part ailleurs. Noël, Noël, Noël nous invite à cesser de faire dans l'éphémère. Noël nous propose de cesser de courir après le vent. Noël veut nous sortir de l'insignifiance, nous sortir d'un monde sans identité, sans signification, sans direction. Et c'est pour nous libérer de tout cela que le Sauveur est venu. La méga joie de la réconciliation. Ça n'enlève pas les nuages du quotidien. Ça n'enlève pas les jours de pluie. Ça n'enlève pas les saisons moroses. C'est sûr. Ça n'enlève pas parfois nos moments de tristesse. Ça n'enlève pas, bon, je crois, j'ai tendance encore au biorhythme, à un moment donné, on se sent moins bien ou on se sent mieux. On vit cela. On traverse des périodes éprouvantes également, dont on n'est pas toujours responsable d'ailleurs. Hein? Le Seigneur permet cela pour nous faire grandir dans notre foi, pour nous maintenir, pour nous soutenir et nous faire réaliser notre grande dépendance de Lui. Et ça nous amène à notre troisième point, le signe de l'annonce. Versets 10 et 11. Je vous évangélise, je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Et vient s'ajouter la doxologie du verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ces propos, bien sûr, ne pouvaient faire autrement que de rendre irrésistible le désir des bergers de trouver ce sauveur-là. Savoir qu'un sauveur est né, c'est une sérieuse bonne nouvelle. Mais il faut quand même le trouver. Hein? Il faut savoir quand même comment entrer en contact avec lui. Ça ne m'est d'aucun profit si je ne le trouve pas. Et la grande question, donc, qui se pose à ces bergers-là, c'est où est-ce qu'on peut le trouver, ce sauveur-là? C'est beau, un ange, c'est extraordinaire, un ange, avec la gloire de Dieu autour de lui, mais il est où, le sauveur? Quelle direction prendre? Quelle signalisation suivre? Il n'y avait pas de GPS, voyez-vous, hein? Et l'étoile des mages n'était pas en fonction, paraît-il, à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il ne savait pas où se diriger. Comme le Seigneur, dans sa miséricorde, ne fait pas les choses à moitié, il ne les laisse pas sans direction, il leur donne un signe. Et si on avait écrit le texte, on aurait dit un drôle de signe. Hein? Il leur donne un signe. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est quoi un signe? C'est un espèce de signal. Ça donne signification. Un signe, c'est tout cela en même temps. Vous trouverez un enfant couché, emmailloté et couché dans une crèche. Bien sûr, Il n'était pas en plein cœur de la ville de Montréal. Il a commencé à parcourir à peu près tous les caravanes-sérails de la place. Hein. Ils étaient là dans un petit coin à Bethléem, un tout petit hameau, et il y avait un seul caravane-sérail, une seule hôtellerie à Bethléem. À Bethléem, je dis bien. Et ils vont se mettre en route pour aller vérifier cela. Et certainement qu'il y avait un seul enfant qui reposait dans les mangeoires. Tous les autres étaient dans leur chambre. Alors, parlons premièrement de la nature du signe. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un signe étonnant. Si les bergers avaient été laissés à eux-mêmes, les bergers auraient commencé certainement à chercher le Sauveur dans les lieux huppés de la Palestine. Ils ne seraient pas allés courir dans les mangeoires ou dans les étables. Hein? Ils seraient allés dans les résidences sacerdotales ou au palais d'Hérode, encore une fois, là, dans les lieux importants. Après tout, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver dans une étable? Un sauveur? Mais non. On va trouver un cheval, un âne, on va trouver des animaux, mais certainement pas un sauveur. D'ailleurs, sans les paroles de l'ange, si les bergers étaient passés par là, par le caravane-sérail, hein, tout en marchant avec leur troupeau, et ils jettent un coup d'œil, et « Ah, regardons, il y a un bébé dans une mangeoire, pauvre famille délaissée, hein, une famille vraiment dans le besoin ici, là. » Il avait l'air des pauvres. Il n'avait pas l'air du tout d'un sauveur, vous voyez. On va en parler tout à l'heure de la grande sagesse de cette humilité-là. Alors, il nous parle de théologie de la croix et non de la gloire. C'est un signe qui nous parle de la théologie de la croix et non pas de la théologie de la gloire. Nous ne sommes pas à l'époque, ben, pour ceux qui sont plus vieux vont se rappeler là, du King's Kid Theology, hein? On est les enfants de roi, il faut avoir tout ce qui est de mieux, tout ce qui est pas du tout. Nous ne sommes pas du tout dans cette mouvance-là. Nous sommes dans la théologie de la croix. Prends ta croix et suis-moi. Bien sûr qu'il y a des moments glorieux, des moments merveilleux qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, mais une chose est certaine, c'est que tout est dirigé et tout est guidé par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les bénéficiaires du signe. À qui ce signe est-il destiné? Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. C'est un très beau mot, là. Je vous épargne un peu de grec, mais on l'a quand même. Mais littéralement, ça devrait se traduire « Et ceci, pour vous, le signe. » Alors, dans le grec, si on fait un petit peu de grammaire, nous avons un datif, un complément d'attribution qui indique la personne à qui ou pour qui quelque chose est fait, est donné en cadeau. C'est littéralement pour cela. Un signe pour ceux à qui sa naissance s'adresse. Et par définition, un signe, c'est pour qui? C'est pour les voyants. C'est pas pour les aveugles. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il faut avoir reçu la vue pour voir la lumière. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière, nous dit le psalmiste, n'est-ce pas? Donc, le signe a pour but de conduire à la paix les hommes que Dieu agrée. Verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Aucune paix entre le ciel et la terre, mais seulement l'hostilité. Nous tous qui étions, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 3, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Aucune paix entre le ciel et la terre. Hey, Dieu est amour, là. Il faut s'entendre. Quand on dit Dieu est amour, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que Dieu aime la justice, Dieu aime la paix, Dieu aime le réel. C'est pas Dieu aime n'importe quoi puis aime le péché. Non, Dieu est amour. Il aime le pécheur, pourquoi? Parce qu'il en fait un saint. Il ne le laisse pas dans ses péchés. On n'est pas sauvé dans nos péchés, on est sauvé de nos péchés. Et ça nous parle également du scandale du signe, scandalon. C'est une pierre d'achoppement. Une occasion de chute, c'est un obstacle, ce signe-là. Le scandale de la crèche prépare le scandale de la croix. Le signe est un scandalon parce que l'homme marche les yeux bandés par son orgueil. C'est un signe qui s'adresse à la foi et non à la vue. pour ça que c'est un scandale. Il s'adresse à la foi et non à la vue. Les gens se plaisent dans le faste, dans les cérémonies émouvantes, etc., etc. Je me souviens quand mon père revenait de l'église à l'époque, on était catholiques chez nous, et ma mère s'appelait Imelda, mon père l'appelait Melda, en dernier il l'appelait juste Da. Mais enfin, et là quand il revenait de l'église, il disait « Melda, c'était donc beau ». C'est vrai que c'était beau. Et je ne veux pas dire que mon père n'avait pas de piété, là, mais ça frappait la vue. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique d'un annonceur de radio, un ex-annonceur de radio, un peu comme moi, qui m'avait entendu à CFOI et qui était étonné que je sois à l'Évangile et il voulait venir à l'église. Alors, on s'est rencontrés dans un restaurant, on a mangé ensemble. Il est venu à l'église et il était complètement déboussolé. Quand tu as vu la simplicité, la frugalité de notre église, il était déconfit. Littéralement. Pas de vitraux, rien. Ben, nos églises sont modestes, on ne l'a jamais revu. C'est quand même dommage parce que je pense qu'il y avait quand même chez lui un certain élan spirituel, mais rien qui frappe la vue. C'est un scandale, ce signe-là. Là, on cherche ce qui est spectaculaire. Là, on cherche des idoles, des gens qui prennent de la place, qui déplacent de l'air. David lui-même a vécu cela, lorsqu'on lui disait dans les psaumes, « Où est ton Dieu? » Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi pour nous. Luc 7, 23 nous dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, et il dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » C'est Jésus qui dit, « Heureux celui, » c'est pas Jean-Baptiste qui parle, c'est Jésus qui fait dire à Jean-Baptiste, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Si on cherche un Jésus spectaculaire, un Jésus triomphant, à sa première venue, on vient de manquer le bateau et de plusieurs kilomètres. C'est à sa deuxième venue que la gloire va apparaître. La gloire du signe maintenant. Moins le signe est glorieux, plus il est glorieux. De si peu, Dieu peut opérer une œuvre tellement glorieuse. Sauver Moïse du Nil, rassembler un peuple, donner la loi. Écoutez, c'est glorieux, mais ici, là, nous avons la perle précieuse qui avait été enterrée. Rappelons-nous du tabernacle, rappelons-nous de Gédéon. La victoire de Gédéon, il n'y avait rien pour frapper la vue. Le tabernacle, là, quand les gens se promenaient et qu'ils voyaient le tabernacle monter au désert, qu'est-ce qu'ils disaient? « Waouh, le ciel vient de descendre sur la terre. » Ils disaient « Non, les Hébreux sont en camping. » C'était ça que ça avait l'air. C'était des gens qui étaient sous la tente, qui vivaient ultra modestement, voyez-vous. Mais en même temps, c'était glorieux parce que la présence de Dieu était dans le tabernacle. À l'époque, la présence de Dieu était localisée dans l'arche de l'Alliance. Quelle belle péricope qui fait ressortir le grand mystère de l'incarnation. Le pape Léon, monsieur de citer le pape, là, mais le pape Léon disait, « Quel est donc cet enfant à la fois si petit et si grand, si petit qu'il repose dans une crèche, et cependant si grand que des anges chantent pour le célébrer. Toute la chorale céleste lui chante un hymne. Alléluia. » Et nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. La signification du signe maintenant. L'humilité. Ce n'est pas le Messie qui s'harmonise à la conception qu'en avaient les Juifs à l'époque. Parce qu'on sait que les Juifs de l'époque attendaient un autre Judas Maccabée. Vous connaissez un peu l'histoire des Maccabées, là, entre les deux Testaments? C'était glorieux, Maccabée qui est devenu... Ça donnait le chandelier à neuf branches, là, la fête de la dédicace, lorsqu'on a redédié le temple au Seigneur. Alors, ils attendaient un signe. Et dans la Bible... Les signes, ça peut prendre différentes formes. Et le signe qui suit, c'est un signe intéressant. C'est un signe qui nous montre que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Dieu n'est pas le Dieu des revendicateurs. J'ai presque envie de vous le dire comme je le sens. Dieu n'est pas le Dieu des grandes gueules. Ceux qui parlent toujours plus fort que les autres puis qui finissent par avoir raison parce qu'ils parlent plus fort. En même temps que ce signe-là, que Dieu leur donne, c'est une épée à deux tranchants. C'est un signe pour vous. Si c'est un signe pour nous, c'est un signe contre autrui. C'est un signe contre les autres. Si l'humilité est signe pour trouver le Christ, l'orgueil devient un signe pour le perdre. Que devrait être la posture d'un chrétien devant la naissance du Seigneur Jésus-Christ? Quelle devrait être la posture du chrétien devant la naissance du Christ et de l'annonce du berger? Quelle devrait être la posture du chrétien devant Noël? À travers le faste, alors que les gens dans cette période, une période qui devrait être festive, font la ligne, le croyant devrait se concentrer sur le signe. Le chrétien devrait se concentrer sur le signe. Un signe étonnant. Comme les bergers, nous avons besoin de direction, sinon nous ne chercherons pas le Sauveur au bon endroit. Comme les bergers, nous avons besoin de cette même direction-là. Nous allons tendance à le voir uniquement dans les bénédictions, le Seigneur, mais pas dans les épreuves, pas dans les déserts, pas dans les échecs. Pourtant, il est là aussi. Nous avons donc besoin, nous aussi, d'une parole d'en haut. Albert Muller, que vous connaissez peut-être, qui est le doyen, le président de Southern Baptist Seminary, a écrit ce qui suit. « We will not believe more than we know, and we will not live higher than our beliefs. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, nous dit la parole. » On retrouve également dans 1 Pierre, chapitre 4, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Et un verset que j'aime beaucoup dans 1 Pierre 3, 6, 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. » C'est un dû, c'est un devoir. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un signe désigné, un signe scandaleux, un signe glorieux, un signe significatif, l'humilité. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. L'humilité de la venue du Christ, c'est le salut qui doit être offert dans l'humilité et qui doit être vécu dans l'humilité. Le texte nous appelle par ailleurs, nous rappelle par ailleurs le caractère impératif de la proclamation de cette bonne nouvelle-là. Qu'on puisse avoir la compassion que cet ange-là avait d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il y ait plus d'adorateurs de Dieu. Bien sûr, les gens se perdent, mais notre souci premier, c'est que Dieu soit vraiment adoré et reconnu pour qui il est. Quelqu'un a écrit, M. Pucky, « Tout feu qui ne se répand pas va éventuellement s'éteindre. De la même manière qu'un feu qui ne brûle pas, une église sans évangélisation est une contradiction de termes. » Maintenant, on pourrait discuter très longtemps sur ce qu'on entend par évangélisation. Il y a toutes sortes de possibilités. On aura l'occasion d'en reparler un petit moment. Mais chose est certaine, c'est que nous sommes des témoins du Christ et que nous avons besoin de répandre cette bonne nouvelle-là lorsque l'occasion nous en est donnée. Alors, à notre Dieu soit la gloire, en Christ Jésus. Amen.